Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulque.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année 2018. On est très heureux de démarrer cette nouvelle année avec vous. Ça va Sidonie?
Oui, ça va très
pas
bien.
Pas trop dur, le réveillon s'est bien passé.
Écoutez,
vous avez pu dormir quelques heures.
En pleine forme, j'ai fait un peu la fête,
bah,
j'ai
super bien.
Un peu dormi. Et je suis un peu réveillée. Bonne année à vous, on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Du bonheur, la santé, la sérénité, de la joie en famille, le tout sur RTL.
Oui, ce serait sympa quand même
oui.
de nous rester fidèles. Allez, pour démarrer l'année en musique, tout à l'heure vers 14h30, c'est l'histoire secrète des chansons qu'on vous propose. Il y aura du Balavoine, Stéphanie de Monaco, Henri Salvador, entre autres.
Mais d'abord, les dessous croustillants de l'histoire de France sur RTL.
La reine mère était tellement contente de voir que Louis XIV enfin s'ouvrait à un univers nouveau, qui lui a d'ailleurs valu une chaude pisse effroyable.
La curiosité est un vilain défaut.
La pratique habituelle de Marie-Thérèse jeune, c'était d'applaudir dès qu'ils avaient fait l'amour.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avec Alain Dagneau, historien et journaliste au Canard Enchaîné. Bonjour.
Bonjour et bonne année à tous.
Bah, c'est gentil, ça fait du bien.
On est retrouvés de vous retrouver en 2018.
Ouais, c'est bien. Vous étiez notre invité en octobre dernier pour nous dévoiler ces dessous croustillants de l'histoire. On avait raconté l'histoire de Catherine de Médicis, de Louis XIV. On a eu envie de découvrir d'autres histoires plus contemporaines. Par exemple, celle du troisième président de la Ve République.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Il est toujours difficile de parler de soi. Et pourtant, il faut le faire pour vous dire qui est ce candidat à la présidence de la République que je suis.
Valéry Giscard d'Estaing, élu le 19 mai 1974. Dès le lendemain, à la Nagno, l'Express publie une série de photos. Où et par qui ont-elles été prises, ces photos?
Alors, ça a été une bourde colossale, si je peux dire, parce que Michel Cotta, à l'Express, voit arriver une journaliste, une paparazza. Hein. Je ne sais pas si on dit paparazza ou paparazzi.
Allez, pour 2018, on se l'offre.
Et donc, elle reçoit des photos. Ceci étant, cette reporter indépendante s'est dit, je vais faire un scoop, donc elle n'avait pas trié ses photos. Donc, il y avait les photos de Giscard d'Estaing dans son bureau du ministère des Finances, qui se trouvait au Louvre.
D'accord, qui était son dernier poste ministériel
avant la candidature. Avec une vue magnifique sur les Tuileries, parfait. Mmh. Et là-dessus, tout d'un coup, Michel Cotta découvre une photo d'une jeune femme alanguie sur le bureau de Giscard, de VGE. Elle se dit, mais c'est pas possible. Et alors, alanguie...
Mais alanguie, ça veut dire quoi? Complètement nue, allongée
Assise en mode... Allongée langoureusement.
Ah oui.
Et la photo ne pouvait avoir été prise que par Valéry Giscard d'Estaing. Or, comme Michel Cotta connaissait bien les lieux, elle savait que Giscard avait une chambre à côté de ce bureau, elle a tout compris.
Qui était cette jeune femme?
C'est une reporter qui n'a pas laissé un nom...
D'accord, mais c'était une jeune reporter. C'était celle qui apportait les photos à l'Express ou c'était une tierce personne?
C'était une indépendante qui s'est dit « je vais gagner beaucoup d'argent avec cette photo-là du tout nouveau président ».
Et d'accord. Cette photo va faire aussi réagir François Mitterrand, le rival de Valéry Giscard d'Estaing. Que fait-il?
Vous savez que Mitterrand était une fameuse pipelette. Il adorait connaître tous les dessous, notamment tout ce qui se passait dans les alcôves. Il aimait potiner. Et il avait donc fait venir cette journaliste. Et il l'avait interrogée, comme il savait si bien le faire. Et la journaliste lui avait raconté les détails. Et il avait dit, ça me déçoit quand même de Giscard.
Mais il s'en était servi? François Mitterrand?
Non, quand même pas.
Autre anecdote publiée dans votre livre, Alain Dagneau, Les dessous croustillants de l'histoire. On y retrouve Valéry Giscard d'Estaing en tête à tête avec une journaliste à Chanona. Il veut préparer lui-même le repas. Ça se passe bien?
Non, pas du tout.
Je m'en doutais un peu.
Au moins, c'est clair.
Le château où il avait reçu cette journaliste, c'était des gens qui disaient, les politiques disent, avec les journalistes, c'est bien, je conjugue l'utile et l'agréable. Et VGE, c'était un tout petit peu ça.
C'est révélateur d'une époque. Hein.
Non, c'est plus maintenant du tout.
Hein. J'espère bien.
Et donc, il l'invite dans son château. Le château est grand. Il a demandé à tous le personnel de partir.
D'accord.
Et
donc
il cuisine lui-même. Ceci étant, il y a une chose qu'il avait oubliée, c'est que la salle à manger était très loin des cuisines. Donc quand il amenait les plats étaient froids, donc cette journaliste qui était une grande gourmande était toute déçue. Et après, elle s'est dit, on va passer à l'action. Non, Giscard a tenu à lui lire ses propres poèmes. C'était interminable, si bien qu'elle a prétexté un mal de tête et elle est allée dans la chambre qui lui avait été réservée et elle a fermé la clé.
Alain Dagneau, on parle de Valérie Giscard d'Estaing, oui, séducteur, mais il y a quand même une madame Giscard d'Estaing. Anémone, comment elle réagit ?
Ah ben, elle réagit avec beaucoup de discrétion. Il faut bien voir qu'elle était la fille du comte de Brandt. Donc, famille là, authentiquement aristocrate et noble, hein, de vieille noblesse.
Donc on subit dans l'aristocratie, c'est
donc
ça ?
Donc on subit, absolument, on dit rien. Un jour, elle en a eu vraiment assez. Et on lui dit, mais alors, votre mari...
Elle se lâche dans une interview, c'est ça, à Madame Figaro ?
Oui, dans une interview à Madame Figaro. Et elle dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit ? Lui sensible, parce qu'on lui disait, mais c'est quelqu'un de sensible. Lui sensible ? Pensez-vous, tout ça c'est pour la galerie. Il ne s'est jamais préoccupé de quelqu'un d'autre que de lui-même. C'est moi, moi, moi.
Extraordinaire.
Ah oui, là, elle n'en pouvait plus.
On ne lirait pas ça non plus aujourd'hui dans les journaux.
La vengeance féminine est un plat qui se mange froid. On va parler de Mitterrand maintenant. Alors de lui, on a découvert les deux familles. Mais connaissez-vous l'amant de Daniel Mitterrand ? C'est l'histoire d'un couple décidément très libre que l'on va découvrir dans un instant sur RTL.
RTL. De 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
François, c'est moi. Il faut libérer le Koweït.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
La curiosité est un vilain défaut.
Vive la République, vive la France.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité avec l'historien Alain Dagneau qui s'attaque aux dessous croustillants de l'histoire. Et avant de parler de François Mitterrand, une dernière bonne histoire à propos de Valérie Giscard d'Estaing. Comment certaines femmes journalistes arrivaient à se dépêtrer de ses avances ?
Il y a un exemple magnifique, c'est celui de Guylaine Othénémer qui n'avait pas du tout envie d'aller plus loin avec Giscard, qui l'avait invité à l'Élysée. Alors elle arrive en moto avec un jean bien solide, un blouson tout aussi solide et Giscard lui dit en cuir et Giscard lui dit mais pourquoi vous ne mettez pas de jupe ? Et elle lui dit mais parce que j'ai une jambe de bois.
Ah, et ça refroidit les ardeurs du président ?
Oui, comme ça, il n'y a pas eu de main baladeuse.
Tout ce que vous racontez, Alain Dagneau, dans ce livre Les Dessous croustillants de l'histoire aux éditions Larousse, est-ce qu'on nous a caché pendant des siècles ?
Ah oui. Parce que j'ai toujours été très étonné de voir que les historiens s'arrêtaient à l'entrée de la chambre.
Mais pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on peut se dire, on n'a pas besoin de savoir tout ça pour analyser l'action de nos rois ou des puissants.
Ah si. Si, pour moi, si. Et c'est ce que disait d'ailleurs Léon Blum. Il disait, moi, je comprends tout à fait qu'on veuille aller dans l'histoire intime. Parce que c'est souvent ces histoires de sentiments, de sexe, de ci, de ça, qui ont entraîné des décisions politiques de tout premier plan. Et dans l'histoire, j'en décris un certain nombre, hein, que ça va de Charlemagne, Henri IV, tout ce qu'on voudra, Louis XIII. Il y a des décisions politiques de premier plan qui ont été prises pour des histoires souvent d'amour.
Alors, on va parler de François Mitterrand maintenant. De lui, on connaît la double famille. On a révélé ça, on a découvert ça, nous, Français, à la fin du deuxième septennat de François Mitterrand, notamment l'existence de Mazarine. Ensuite, on a tous en tête les images de l'enterrement avec les deux familles côte à côte. Mais alors, ce que l'on ne sait pas forcément encore aujourd'hui, c'est que Danielle Mitterrand, elle aussi, a eu un autre amour de sa vie, avec une double vie. Avec qui ?
Ah ben, elle avait bien raison, ceci étant.
Oui, ça, c'est
parce
sûr.
Que lui, la trompait hardi petit. Hein. D'ailleurs, il avait dit « Je ne me reconnais pas le droit de refuser à ma femme ce que je m'octroie ». Et ça, il a, pour une fois, là, c'était vraiment bien.
Une belle parité dans l'infidélité.
Oui, mais ceci étant...
Donc elle avait un amoureux, c'était qui ?
Oui, alors elle avait un amoureux, c'était un prof de gym qui avait 12 ans de moins qu'elle, qu'elle a connu pendant plus de 25 ans. Hein. Ils ont eu une relation de 25 ans. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ce que je décris dans les dessous, c'est que lorsqu'ils avaient leur maison rue de Bièvre,
les Mitterrand,
Daniel Mitterrand avait sa chambre au premier étage. Jean Balinci, qui était le fameux
prof de gym,
avait la chambre juste à côté d'elle. Et François Mitterrand était l'étage au-dessus. quand du moins ils ne découchaient pas, c'était ce qu'ils faisaient le plus souvent.
Mais vivaient en tous ensemble en fait.
Oui, et alors Jean Balanci, qui était quelqu'un de très dévoué, était extraordinaire parce qu'il allait chercher les croissants, les journaux le matin, et généralement il prenait son petit déjeuner avec qui ? Non pas avec Daniel qui se levait un peu plus tard, mais avec François.
C'est dingue, donc on est vraiment dans un couple libre. Est-ce qu'on est aussi dans un couple de façade ? C'est-à-dire, est-ce que ça dure officiellement pour ne pas nuire à la carrière de François Mitterrand ?
Alors, Mitterrand était redoutable en matière politique, vous le savez. C'était un manipulateur et puis c'était quelqu'un qui était très autoritaire. Et ce qu'il a fait, c'est que dès qu'il a été élu en 1981, pour que rien ne s'ébruite, il a demandé à Jean Balanci de regagner sa province natale, c'est-à-dire à Dax.
Donc c'est la fin de l'histoire d'amour entre Daniel et son prof de gym ?
Ça a été effectivement la fin d'une histoire d'amour. Mais alors c'est curieux d'ailleurs, je raconte ça. C'est que François Mitterrand, périodiquement, lorsqu'il y avait des grands matchs de rugby dans le sud-ouest, envoyait des invitations à Jean Balanci. C'est pas mignon, ça ?
Oh, ben oui, c'est très, très mignon.
Un mari fidèle à l'amant de sa femme. On aura tout voilà, vu.
C'est complètement dingue. Les dessous croustillants de l'histoire de France, publié chez Larousse. Et une dernière petite histoire concernant François Mitterrand. Vous racontez ce trajet en voiture avec la femme de Charles Hernu, qui s'appelle Jacqueline Chabridon. Qu'est-ce qui se passe avec Mitterrand ?
Ah ben, aujourd'hui, avec ces histoires de harcèlement, les uns et les autres, ils passeraient tous en justice. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup plus libre, si on peut dire.
Et, Ou en tout cas, les femmes n'osaient rien dire.
Voilà. Il était avec donc Jacqueline Chabridon. Il y avait eu une réunion politique à Nevers. Jacqueline Chabridon avait suivi ça. Et à la fin du meeting, comme disait d'ailleurs Mitterrand, je ne peux pas sortir d'un meeting sans partir avec une femme. Donc là, il partait avec Jacqueline Chabridon. Il lui dit, tenez, je vais vous raccompagner en voiture. C'était très gentil. Il la raccompagne, ceci étant dans plein chemin de campagne, il s'écarte un peu de la route principale, il s'arrête.
Il lui fait le coup de la panne ?
Alors, pas vrai. Pas vraiment.
Ça vient
mais
là.
Alors, il lui met directement la main dans le soutien-gorge.
Ah oui, il y a un problème.
Et Jacqueline Chabridon lui dit, mais attendez, il lui retire la main. Oui. Il lui dit, mais attendez, si vous me faites ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Charles Hernu, mon mari, ministre de la Défense, eh bien, me trompe, parce que vous n'oseriez certainement pas faire ça s'il était fidèle.
Et donc, Mitterrand était entouré de ministres volages ?
Ah ben, il disait qu'il préférait aller avec les femmes de ses amis.
C'est sympathique.
Oui.
Et maintenant sur RTL, Louis XV, 60 ans de règne et quelques histoires de fesses.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
En ce début du XVIIIe siècle, un roi qui est encore un enfant incarne tous les espoirs de renouveau de la France.
La curiosité est un vilain défaut.
N'est-ce pas une bien lourde tâche à laquelle je suis appelée ?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Louis XV vécut dans ses plaisirs et ne fit jamais véritablement son métier de roi.
On dit de lui qu'il ressemble à l'amour.
C'est tout ce que l'on n'a pas appris à l'école, en fait, avec notre prof d'histoire géo.
C'est dommage.
Que l'on vous dévoile maintenant sur RTL avec notre invité Alain Dagneau, journaliste au Canard Enchaîné, historien. Vous publiez les dessous croustillants de l'histoire. Louis XV, on en parle, on est au XVIIIe siècle. Tiens, à propos du canard, j'y pense. Où est-ce qu'on pouvait retrouver l'esprit du canard à l'époque ? Il y avait des pamphlets, il y avait des chansonniers. Où est-ce qu'on pouvait retrouver ça ?
Oui. C'est-à-dire qu'à cette époque-là et autrefois, moi j'ai été étonné, souvent cité d'ailleurs, parce que j'adore citer ces textes anciens qui sont d'une crudité, d'une verdeur de langage qu'on n'oserait pas aborder aujourd'hui. Hein donc,
il n'y avait pas de politiquement correct à l'époque,
c'est ça ? Non, il
n'y
avait pas de politiquement correct, pas du tout. Ah. On parlait de sexe, de trucs en détail. Et par exemple, pour Louis XV, eh bien, il y avait des chansons qui couraient dans les rues. Les gens chantaient ça à tue-tête, ils s'amusaient.
Et on chantait quoi, par exemple ?
Oh ben, on chantait... France, pour lorsqu'il était avec la du Barry, France, ton salut vint d'une pucelle, tu périras par la catin. Et alors les gens chantaient ça dans les rues. Alors ça énervait le roi, bien sûr, mais bon, comme il était à Versailles, un peu isolé. Et puis, ça c'était extraordinaire, mais les gens osaient dire les choses. Et par exemple, il y a aussi un pamphlet, parce qu'il y avait beaucoup de textes qui paraissaient. Mmh. Il y avait un pamphlet, le roi s'écrit, pour sceptre, prends mon vite, il vit, il vit.
Mon vide, c'est le sexe, il faut
oui,
le dire.
Oui, c'est le sexe, le vide. Mais on n'oserait pas dire ça aujourd'hui.
Bah non,
qui
on a
oserait
tort.
Dire ça dans les milieux, par exemple.
Au Canard Enchaîné.
Alors, au Canard Enchaîné, on se permet
Charlie
des choses,
aussi.
Mais pas trop. Plutôt, ouais. oui, ouais. on n'ose pas trop les trucs sexuels au canard. Hein.
On laisse ça à d'autres.
À la curiosité, ça ne nous gêne pas, en tout cas. Qu'est-ce qu'on savait des maîtresses de Louis XV?
Alors, il en a eu beaucoup. Le truc, c'est amusant. Il a fallu le déniaiser, si je peux dire.
Ah oui, dans une grande fête
c'est ça.
Organisée. Vous racontez ça dans votre livre publié chez Larousse. C'est quoi cette fête? Qui l'organise déjà?
C'était amusant parce que c'était une femme qui voulait prendre le pouvoir. Elle s'appelait Madame de Prie. Bon.
Ouais.
Et donc, elle s'inquiétait, et tout le monde s'inquiétait à la cour, parce qu'il s'intéressait plus aux jeunes garçons de son âge, qui avaient entrepris de faire comme s'il était Henri III et de jouer les mignons.
Mais il avait quel âge à cette époque-là?
Il avait un peu moins de 15 ans. Et donc, d'ailleurs, à Versailles, ça y allait dardard. On lui mettait la main à la braguette. Il y avait d'ailleurs Monsieur de la Trémouille qui disait, voilà. Et
citation précise, voilà.
mais les gens racontent ça. Par exemple, même Voltaire, par exemple, disait, Monsieur de la Trémouille est écarté de la cour pour avoir mis trop souvent la main dans la braguette de Sa Majesté.
C'est incroyable.
Est-ce qu'on dirait ça aujourd'hui,
d'accord.
par exemple, pour Macron ou...
Et donc, il faut lui donner le goût des jeunes femmes, c'est ça?
Voilà.
Et cette soirée est organisée,
est organisée à Chantilly. La Madame de Prie réunit 17 aguicheuses, mais des gens, des femmes de la haute société.
Célibataire?
Non, mais ça ne comptait pas.
D'accord.
Si
Denis,
on s'en moquait.
Pas le plus important,
Mademoiselle de, par exemple, il y avait Mademoiselle de Charolais, dont on savait qu'elle recevait ses amants nus sous un habit de religieuse.
Ah,
elle
parfait.
Adorait ça.
Ah oui.
Et donc, elles se sont dit, tiens, on va jouer à Colin Maillard, à Chantilly,
oui.
dans les fourrés de Chantilly. Et les 17 femmes se mettent toutes nues et elle demande au roi, au jeune roi, hein, qui avait une quinzaine d'années à ce moment-là, un peu plus,
oui.
de les tâter pour savoir qui elles sont.
Pas mal le jeu.
Pas mal le jeu. Le problème, ouais. c'est qu'il est resté totalement indifférent. Il est resté de marbre à ce moment-là. Donc, il a fallu aller plus loin. Et donc, on l'a marié à Marie Leczinska, qui était un peu plus...
Qui était plus âgée, qui avait 22 ans.
C'est ça.
Comment se passe leur nuit de noces? Tiens, question curieuse.
Vous en posez de ces questions aussi.
Mais je crois qu'Alain Dagneau, il en sait beaucoup quand même.
J'en parle aussi parce que j'aime bien décrire aussi ce qu'on nous décrit, hein, parce que tout ça repose sur des textes authentiques ouais. de l'époque. Et alors, c'est le cardinal, un abbé, vous vous rendez compte, un religieux, le cardinal de Fleury, qui, avant qu'il aille dans la chambre de la reine, lui remet des images érotiques de femmes nues. Et il va même plus loin parce qu'il voit que ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors là, il lui remet un jeu de cartes érotique, pornographique même, avec toutes les positions.
Un mode d'emploi.
Un mode d'emploi. Et c'est très exactement le mot. Et au matin, il y a toute la cour qui attend. Et il y a le maréchal de Villars et le prince de Bourbon qui ont assisté à une partie et qui disent « Ah, ils ont été contents. La nuit a été glorieuse. » Et alors on voit le maréchal de Villars faire avec ses doigts le chiffre 7.
Ah oui.
Pour cet orgasme
bah
à
oui.
7 fois.
Cet orgasme.
Ah, la fougue de la jeunesse à 15 et 22 ans.
Ils auront 10 enfants en 10 ans.
Voilà,
oui.
10 enfants en 10 ans, c'est pas mal. Mais
c'est
Louis XV ensuite va aimer s'encanailler dans les rues de Versailles. Récit à venir sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Les dessous croustillants de l'histoire, c'est le thème de notre curiosité avec le journaliste et historien Alain Dagneau. On parlait de Louis XV qui aimait s'encanailler notamment dans les rues de Versailles. Est-ce qu'il s'y rendait incognito ou il assumait sa royauté?
Alors, il faut voir qu'à Versailles, il y avait ce qu'on appelait les mouches. C'était des espions et c'était aussi des gardes du corps. Donc, il écartait un peu tout le monde. Mais Louis XV se faisait apporter par ses valets, notamment son valet bachelier, il se faisait apporter des jeunes filles. Parce qu'il notamment une qui était la fille d'un boucher de Poissy, qui lui a donné une chaude pisse effroyable. Et donc, après, il avait décidé de ne plus recevoir que des vierges. Et Madame de Pompadour avait parfaitement compris le jeu et ce qu'il fallait faire. Elle avait organisé ce qu'on appelait le préaucère, c'est-à-dire quelques maisons.
C'est un quartier de Versailles aujourd'hui. Ouais.
Voilà, c'est un quartier de Versailles, mais où il y avait des maisons dans lesquelles les rabatteurs du roi, parce qu'il avait beaucoup de rabatteurs, enfin c'est surtout la Pompadour qui avait organisé un système de rabatteurs qui lui amenait des jeunes vierges. Et elles étaient vérifiées, notamment par un nouveau valet parfaitement complaisant qui s'appelait Lebel, et il lui amenait des filles qu'il avait vérifiées au préalable.
Quelle entreprise,
n'est-ce pas?
C'était tout un business, en fait, ouais.
Oui.
Et ben voilà, les
alors, il leur donnait, pardonnez-moi, après, ça durait une journée ou deux. Et ensuite, quand elles repartaient, il leur donnait un petit étui avec des pièces ou quelques bijoux. Et puis, hop, au revoir.
Elles étaient récompensées, en quelque sorte. Merci beaucoup, Alain Daguenau.
Merci beaucoup.
Les dessous croustillants de l'histoire de France. Oser une autre histoire de France est publié chez Larousse.
Merci à vous.